Vous écoutez RTL.
Merci d'écouter la première radio de France, RTL, il est 9h.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Géant du cinéma honoré aujourd'hui à Cannes, Martin Scorsese, Palme d'Or avec Taxi Driver en 1976 et coup de projecteur sur le jury du 71e festival présidé par Cate Blanchett. Nous rejoindrons dans un instant nos envoyés spéciaux sur la croisette, Stéphane Boutsock et Anthony Martin. Au sommaire du journal musical de Steven Bellery, le premier album de Clara Luciani, nouvelle perle de la chanson française, les 30 ans du Grand Bleu et de sa célèbre bande originale composée par Eric Serra. Elle sera jouée en live lors des deux projections exceptionnelles du film à la scène musicale de Boulogne. Un joli coup de cœur ce matin puisque nous vous offrons des places pour le concert d'inauguration du grand studio RTL avec Sting et Calogero. Vous avez bien entendu, avec Sting et Calogero. France 3 diffuse ce soir un documentaire bouleversant sur les enfants dans la Seconde Guerre mondiale et M6 fête les 10 ans de carrière de Michael Gregorio, ce sont les choix télévisés, d'Isabelle Morelli-Bosque. Enfin, la collection d'art Rockefeller, mise aux enchères cette nuit à New York, et déjà des records pour la vente du siècle. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Philippe Corbet.
RTL Matin,
laissez-vous tenter. Festival de Cannes 2018 sur RTL.
Direction Cannes, on y retrouve nos envoyés spéciaux sur la croisette, Anthony Martin et Stéphane Boutsock. Bonjour les garçons.
Bonjour à tous.
La 71e édition du festival a donc été déclarée ouverte hier soir.
Oui, au cours d'une cérémonie présentée par Édouard Baird, qui, dans un de ces moments irrésistiblement lunaires dont il a le secret, a accueilli le délégué général du festival, Thierry Frémaux, Pierre Lescure, le président du festival, et bien entendu, le jury de Cate Blanchett, avant, écoutez, de se lancer dans cette tirade assez jouissive adressée à la salle.
Le jury est maintenant au complet. Vous n'en faites pas partie. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a merdé dans vos carrières, non? C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au Festival de Cannes, mais clairement, vous n'êtes pas du bon côté. La notion d'ombre et lumière, là, est forte ce soir. Je sais pas, parce que beaucoup d'entre vous ont participé à des films. Alors posons-nous les bonnes questions.
Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux.
Et vous l'entendez, c'est Juliette Armanet qui est venue joliment, délicatement, poétiquement ponctuer cette cérémonie en reprenant Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand, chanson du film L'affaire Thomas Crown, sortie il y a pile 50 ans, en 1968.
C'était en effet un moment de grâce. Oui. Alors les 9 membres du jury ont monté les 24 marches du Palais des Festivals pour la première fois. Pour assister à cette cérémonie, ils seront évidemment totalement discrets pendant la quinzaine. Ils ont pris la parole un peu plus tôt dans la journée, hein, Anthony.
Oui, la présidente de ce jury, l'actrice australienne Cate Blanchett, d'une classe folle dans son smoking rose pâle, était magnifique. A donné sa définition d'une bonne palme d'or.
La palme d'or doit récompenser un film qui a tout. Des performances d'acteurs, une réalisation, un grand scénario, une belle mise en scène, une équipe. Et il faut que la palme d'or fasse travailler l'imagination du public, au-delà de la période du festival.
La présidente veut donc un film qui ne marque pas que le jury. Parmi les 8 jurés qui l'accompagnent, 2 Français, on les écoute, le réalisateur Robert Guédiguian et l'actrice Léa Seydoux, toute timide hier.
J'ai hâte de découvrir tous ces films, de tous ces metteurs en scène qui viennent du monde entier, mais l'émotion forcément l'emportera.
L'idéal serait de trouver effectivement un film qui s'adresse autant au cœur, à travers le rire et les larmes bien sûr, mais autant aussi à la raison, à l'intelligence du monde, à la compréhension du monde, à la compréhension des questions que le monde se pose. En fait, je vais vous dire une citation de Mao Tse-tung que j'adore. Et Mao Tse-tung disait « L'art doit marcher un pas devant le peuple, mais un pas seulement. »
C'est formidable. Ah là là, Robert Guédiguian. Oui. La course à la Palme d'Or est donc lancée dans un contexte toutefois particulier cette année pour ce jury en majorité féminin. C'est, rappelons-le, le premier festival de Cannes depuis l'affaire Weinstein.
Mais oui, on en parle beaucoup, c'est vrai. Le choix de confier la présidence à Cate Blanchett n'est pas anodin. C'est une actrice exceptionnelle, c'est une femme engagée dans la lutte contre le harcèlement sexuel à Hollywood. Cate Blanchett s'est exprimée sur l'important sujet de l'égalité homme-femme.
Je pense que pour changer profondément la société, il faudra prendre des mesures spécifiques, au-delà des déclarations pontifiantes. C'est ce qui aidera à respecter l'égalité entre les genres, la diversité raciale. C'est vers ça que nous devons tendre. Ça vaut pour le cinéma, mais face à ces problèmes, l'industrie du spectacle n'est pas différente des autres industries à travers le monde. Est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait plus de femmes en compétition? Oui. Est-ce que j'aimerais qu'il y en ait plus dans le futur? Oui, j'espère. Mais on va faire avec ce qu'on a. Il n'y a pas de transgenre? Zut, on a échoué. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Au-delà du festival, il faudra continuer à travailler au changement.
Ouais, elle est assez fascinante, Claire Blanchette, parce qu'en plus, elle a de l'humour, elle a tout, quoi. Du changement, elle le souhaite. Et déjà, une première ici dans l'histoire du festival, puisque samedi, nous assisterons à une montée des marches 100% féminine, une centaine de femmes sur les marches.
Allez, pour respecter la parité, passons maintenant à l'homme de ce mercredi 9 mai. Stéphane, vous avez eu la chance de rencontrer Martin Scorsese, qui va recevoir un prix aujourd'hui à Cannes.
Hein. Oui, à la quinzaine des réalisateurs. C'est une des sélections parallèles ici. Cette sélection remet chaque année le Carrosse d'or, d'après le titre d'un film de Renoir, un grand cinéaste. Et donc pour ce 50e prix, c'est le réalisateur de Taxi Driver, Les Affranchis, Raging Bull, Gangs of New York ou Casino qui est honoré. Il y a 44 ans, tout juste, Scorsese était ici pour la première fois en compétition avec Mean Streets, son troisième long métrage. Souvenir.
Oh, c'était dingue. Nous étions ici avec Robert De Niro et Harvey Keitel. C'était une époque de liberté, car nous étions inconnus et nous pouvions aller partout. Il y avait ce sens de la célébration. Les gens vous disaient « J'adore ton film » ou « Il faut que tu rencontres ce mec, il fait du bon boulot ». C'est ici, je crois, que j'ai rencontré Wim Wenders ou Herzog la première fois. C'est extraordinaire, comme un champ des possibles irrigué par le respect. Et puis, c'est une rampe de lancement international pour moi. Le film a été montré ici, au monde entier. C'était comme dire « Hey, me voilà !» Et croyez-moi, ça ne me faisait pas peur.
Be My Baby, tube des Ronettes, bande originale de Mean Streets qui sera de nouveau projetée tout à l'heure à Cannes. En 74, Scorsese était un trentenaire avec Spielberg et d'autres. Ils allaient révolutionner Hollywood et le cinéma. Aujourd'hui, à 75 printemps, s'il regrette ce Cannes de jadis, il n'ose plus vraiment affronter la foule de la croisette.
Je suis un peu vieux pour ça. Désormais, il m'arrive de ne plus pouvoir me balader sur la croisette ou dans les rues surpeuplées de New York. J'ai peur de faire un faux pas et de me briser la hanche, ce qui, à un certain âge, est un vrai problème. Donc, je fais très attention. Mais cela dit, ça me manque vraiment. Mais en vieillissant, il faut conserver son énergie pour sa famille et son travail. Car moi, il faut que je continue, que j'avance. Comme disait Frank Capra, faire des films est une maladie et le seul antidote, c'est d'en faire toujours plus. Mais c'est une bonne maladie.
Une bonne maladie en effet, ouais. Et puis l'ordonnance du bon docteur Scorsese continue de régaler les cinéphiles du monde entier, et pas que d'ailleurs. Le cinéaste américain vous a parlé de l'origine de sa vocation, Stéphane.
Oui, et ça nous ramène aux années 40-50 dans le quartier new-yorkais de Little Italy, où le petit Marty a grandi, enfant asthmatique, privé de sport. Il trouve à l'adolescence son échappatoire dans les salles de cinoche, au point de vouloir en faire son métier.
C'était mon seul tremplin, la seule forme d'expression qui me convienne. Au début, je voulais être peintre, mais le mouvement et la couleur me fascinaient. La littérature, c'était autre chose. J'étais issu d'un milieu ouvrier et on n'avait pas de livres à la maison. J'ai dû apprendre ce qu'était la lecture et plus tard, à vivre entouré de bouquins, vers l'âge de 14-15 ans. Tout pour moi était affaire de visuel et de narration. Ça ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui le stand-up, ou l'essai verbal. Et ça me vient de ma famille, des anciens qui racontaient des histoires pour faire de nous des enfants sages.
Divertir tout en abordant des thèmes graves ou violents, c'est le cœur du cinéma de Martin Scorsese. Ses fresques brutales sur les voyous, la mafia, la police, ce peuple de la rue qui l'a abreuvé, inspiré. Là aussi, on en revient à Catherine et Charles, ses parents.
My mother was very funny. Ma mère était très marrante et mon père très strict. Un mélange intéressant. Ils s'aiment follement malgré les drames de la vie. Donc, c'est de là que j'ai appris le sens du récit, mais aussi de mes oncles, de mes tantes. Avec les grands-parents, c'était différent. Ils étaient siciliens et c'était difficile à comprendre. Je percevais la musicalité de leur langue et bien sûr, l'intention quand ils nous intimaient. Là, c'était universel. Et bien sûr, tout cela a été enrichi par le cinéma italien, le néo-réalisme que j'ai vu dès mes 5 ans. Dans ce monde qui était le mien, j'ai beaucoup appris des films de divertissement.
Alors, puisqu'on parle de divertissement, Stéphane, le prochain film de Martin Scorsese sera une nouvelle fois consacré à la mafia.
Absolument, ça s'appelle The Irishman et ça raconte l'histoire vraie de Frank Chiran, syndicaliste impliqué dans le meurtre du roi de la pègre Jimmy Hoffa. On est en 75, casting fou, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel. Et c'est Netflix qui a aligné les 150 millions de dollars de budget puisqu'aucun studio ne voulait suivre Scorsese dans cette aventure. Question toute bête, hein, The Irishman sera-t-il destiné à la plateforme télé ou sera-t-il diffusé sur grand écran?
Oh, yes, it will.
Bien sûr qu'il le sera. Je termine le film l'an prochain et je vous assure qu'il sortira au cinéma. La question est de savoir d'où viennent les réalisateurs aujourd'hui et qui les finance. Moi, je ne pourrais plus tourner pour un studio. Mais le plus important, c'est qu'il faut continuer à faire des films. Il faut que des petits nouveaux arrivent et qu'on les soutienne. On peut désormais tourner un film avec un iPhone, mais où le projeter? Tout est en train de changer. Il faut juste avoir l'esprit ouvert, digérer cela et en faire quelque chose au bénéfice du cinéma. Dans le cas de Netflix, sachez qu'ils financent la restauration d'un film inédit d'Orson Welles, ce que personne ne voulait faire. L'an dernier, ils ont produit 33 films, plus qu'aucun autre studio. Et je parle de vrais films, pas de ces trucs de super-héros.
On verra si The Irishman sort sur Netflix et au cinéma dans le monde entier. On verra si ça sort dans le monde entier quand même au cinéma. Scorsese reçoit donc le Carrosse d'Or ici cet après-midi. Avant une rencontre avec le public et le film sera évidemment, je parle de Main Street, rediffusé.
Et puis par ailleurs, la compétition continue hein, avec Everybody Knows. Hier, deux nouveaux films en lice aujourd'hui.
Yom Eddin de l'Égyptien Bishoki, l'histoire d'un lépreux guéri qui part à la découverte de son histoire. Autre film, L'étau du Russe Kirill Serebrennikov qui raconte l'émergence de la scène rock à Leningrad au temps de la perestroïka. On vous cause de tout ça demain.
Avec grand plaisir. Le Festival de Cannes, c'est tous les jours dans Laissez-vous tenter. Merci à toute l'équipe. La musique est de retour, mais il sera aussi question de cinéma dans quelques instants. Nous serons avec Steven Bellery et notamment Eric Serra, Le Grand Bleu.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
La musique avec Steven Bellery. Bonjour Steven.
Bonjour à tous.
Toute l'actualité de la semaine est d'abord les 30 ans du Grand Bleu. Le film de Luc Besson était sorti le 11 mai 1988. Le Festival de Cannes va le célébrer dans deux jours. Et à Paris, bien le compositeur de l'incroyable bande originale va rejouer sa partition, Steven.
Oui, à l'occasion d'un ciné-concert, Eric Serra et ses musiciens vont rejouer en live la bande-son par-dessus le film ce vendredi à la scène musicale près de Paris. Une deuxième séance est prévue le 2 juin. La BO du Grand Bleu, c'est 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde et des airs indémodables. Raya, l'un des thèmes que l'on entendait tout au long du film, j'ai rencontré Eric Serra qui revient pour RTL sur la composition de la musique des mois avant qu'il ne commence à l'écrire. Eric Serra avait été embarqué par Besson et le casting du film sur un bateau en Méditerranée.
Je pense que l'inspiration, elle est venue surtout de ça, ouais. C'est que j'ai beaucoup plongé, je me suis beaucoup entraîné comme les acteurs à l'apnée. J'ai eu la chance d'être initié par Jacques Mayol lui-même et c'était génial. Notamment, un des entraînements qu'on faisait, c'est qu'on descendait sur un fond de 10-12 mètres avec des poids, on se posait au fond et on restait le plus longtemps possible. J'avais quand même, au bout de 3 semaines, j'avais 2 minutes 30 d'apnée, allongé sur le sable, en train de regarder la surface de l'eau qui brille comme ça, 10 mètres plus haut. Et c'est une sensation extrêmement mystérieuse, magnifique, étrange. Non, j'ai pas entendu la musique du Grand Bleu quand j'étais sous l'eau. Mais les émotions que j'ai ressenties, clairement, ont ensuite été transposées en musique.
Ciné-concert du Grand Bleu avec la musique live d'Eric Serra, c'est ce vendredi et le samedi 2 juin à la scène musicale près de Paris, les tarifs à partir de 29 euros.
C'est tentant, hein. Belle partition celle du Grand Bleu. Alors dans l'actualité musicale également, la sortie du premier album de Clara Luciani, elle vient de publier Sainte-Victoire, Steven.
Oui, Sainte-Victoire, massif du sud de la France que Clara Luciani n'a pas quitté des yeux pendant sa tendre enfance près de Marseille. Elle en garde une part de son tempérament, exemple avec La Grenade, plage 1 de son disque.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat?
Luciani, 25 ans, nouvelle voix d'une chanson française assumée. Elle y ajoute ligne de basse ou de guitare électrique qu'elle joue. Elle a griffonné ses premiers textes à l'âge de 11 ans, a débarqué à Paris à 19 ans. Après quelques expériences en groupe et ou en anglais, elle publie un premier disque à la fois naïf et insolent, féminin et féministe, porté par une voix grave, intense, une voix qu'elle a eu du mal à assumer.
Oui, cette histoire effectivement de la chorale, j'avais mon professeur qui avait décidé de monter une chorale et alors il a divisé la classe en deux, mettant les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et moi, quand j'ai commencé à chanter, il m'a demandé de me mettre avec les garçons. J'avais effectivement une voix déjà très grave. Difficile à accepter parce qu'en plus de ça, je veux dire, c'était accumulé à plein d'autres choses qui me rendaient différente des autres petites filles. Quand j'étais très très grande, pas très jolie, quoi. Un peu reclue, quoi, un peu mise sur le côté. Ça, ça a été difficile. Ça me pèse, en fait, toutes ces choses qu'on attend d'une femme. Et en fait, quand on a 25 ans et qu'on réalise ce genre de choses, bah tout à coup, on se dit, mon Dieu, mais je vais jamais être à la hauteur de tout ça.
Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire, conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi comme une femme, comme une femme, comme une femme. Moi, j'ai pas les toffes, pas les épaules.
Clara Luciani réussit à écrire et composer ce disque grâce à un moment douloureux, Stéphane.
Oui, une épreuve qui a fait effet de déclic pour cette fan de Nico, chanteuse égérie du Velvet Underground.
Je le dois beaucoup finalement à un chagrin d'amour que j'ai vécu et qui m'a en fait permis d'écrire mes chansons en français. Avant, je sais pas, je osais pas. Je crois que j'avais besoin d'un truc fort à raconter. J'attendais quelque chose qui puisse me donner en fait la légitimité de me lancer justement dans cette aventure-là en solo, quoi. Ça a été nécessaire pour moi pour commencer, pour mettre le pied à l'étrier et comprendre en fait que j'étais capable de le faire. C'est dur d'aimer tout de suite de la bonne manière, on se perd souvent parce que c'est un sentiment qui est tellement immense. Quand on ne le connaît pas, on ne sait pas vraiment l'apprivoiser et souvent on s'engouffre dedans et on se perd.
Luciani publie Sainte Victoire, premier album très réussi, un clair-obscur musical entre force et ultra-sensibilité. Elle chantera au Franco de La Rochelle le 13 juillet ou à la Cigale à Paris le 29 janvier prochain.
On vient de découvrir une chanteuse. Ah, oui. On termine avec un joli cadeau. Hein. On va vous faire gagner à présent des places pour assister au tout premier concert qui sera enregistré dans le grand studio RTL. Et ce sera lundi prochain, le 14 mai, Steven.
Avec une affiche de folie, Sting et Shaggy viendront jouer plusieurs titres de leur album à deux voix. Mais aussi Calogero, dont la tournée triomphe partout en France, portée par le carton de Liberté Chérie, son dernier disque.
Et pour remporter vos deux places pour assister à cette soirée inaugurale exceptionnelle dans nos studios à Neuilly, lundi prochain à 20h30 précise, il faut répondre de suite à la question que vous pose Steven.
Ah, question pas facile, parce que c'est quand même un très joli cadeau. Les musiciens Sting et Calogero ont un point commun. Lequel ?
Réponse au 3210. Merci beaucoup Steven Bedry pour ce journal musical. Dans un instant, la télévision.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Notre page télévisée commence avec les audiences de la veille et Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Oh, ça va être très vite fait. Tout se joue entre la 2 et la 3. La 2, eh ben, 6 400 000 personnes étaient devant le match de foot, les Herbiers, PSG, même moi, c'est vous dire. Et juste derrière, Capitaine Marlowe, 5 millions pour une rediffusion. Ah. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter.
Vous allez me dire Capitaine Merguez, je ne sais pas.
Aussi, on peut.
Alors, pardonnez-moi, on va maintenant les programmes. On signale d'abord le documentaire sur France 3 consacré aux enfants dans la guerre.
Oui, ceux qui avaient 10 ans en 40 et qui tentaient de se construire quand d'autres allaient tout détruire. Les gosses voyaient tout, disaient rien. Enfants de prisonniers, de résistants, de collabos, enfants allemands. Ils racontent, et c'est d'autant plus remarquable qu'il y a d'incroyables archives tellement simples de quotidien qui ne l'étaient pas. Écoutez, en 39, cette institutrice face à ses élèves.
Vous allez me dire ce que vous pensez d'Hitler.
C'est un vilain monsieur qui a une main comme ça et des moustaches comme ça.
C'est un gourmand, il veut manger tous les pays de l'Europe.
Je pense que si la guerre finira bientôt, mais ce qui est fait, c'est qu'on la gagnera sûrement.
Voilà. tous sont bouleversants, car encore bouleversés, comme Tommy l'Alsacien, le frontalier, qui un jour voit débarquer des Allemands tellement bien élevés.
Un officier allemand qui s'est présenté très poliment, il m'a dit « Ah, c'est une belle allée de châtaigniers que vous avez devant la maison. Ben, je vous assure, chère madame Ungerer, vous aurez un juif pendu à chaque branche. » Ensuite, il nous a annoncé qu'il avait trois fils, qu'un fils était déjà mort en Pologne et qu'il espérait que ses deux autres fils allaient mourir pour le Führer. Dans chaque classe, chaque heure commençait par une chanson nazie et un triple salut au Führer. Je les connais encore tous par cœur. On ne se débarrasse pas d'un lessivage de cerveau. Le premier devoir qu'on m'a demandé, c'était de dessiner un juif. Je ne savais pas ce que c'était. Le français a été interdit. On pouvait être arrêté. Nous parlions le français à la maison. J'étais alsacien dans la rue et allemand à l'école. C'est quand même quelque chose qui vous ronge à la longue. La peur, c'est facile à combattre. Ce qui est plus difficile, c'est l'anxiété qui est intérieure, qui vous grignote.
Voilà, 650 000 orphelins, 90 000 enfants disparus durant l'exode, 11 500 enfants juifs déportés. Ce doc est un chef-d'œuvre, c'est un exemple, c'est exemplaire.
Vous avez également adoré la spéciale Michael Gregorio sur M6 dans un univers totalement différent.
C'est peu de le dire. Laurent Gérard admire aussi cet humoriste imitateur dont le talent énorme est inversement proportionnel à son poids plume. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Hein. Cet artiste de 34 ans, découvert en 2001 dans Graines de Star, est produit par Laurent Ruquier. Ce soir, M6 diffuse Petit A, le spectacle enregistré en décembre 2016 à Paris. Petit B, un portrait grégorien, si j'ose dire, d'1h45. Et petit C, la retransmission de son concert 2014. Impossible de choisir une voix plus qu'une autre. Alors j'ai fait facile, j'ai choisi une imitation d'instrument. Voilà, c'est lui qui fait ça, c'est prodigieux. Cette spéciale sur M6, c'est une première, quasiment une consécration. C'est vrai, Michael Gregorio, que 10 ans de carrière, finalement, ça se fête. Hein.
Bah merci. Ah bah oui, c'est la première fois sur une grande chaîne, absolument. C'est la captation du spectacle, le film de J'ai 10 ans, qui est diffusé sur M6.
Mais dis donc, alors vous y êtes du sol au plafond ?
Sur M6 ?
Oui.
Oui, ça fait beaucoup. Enfin, si on m'aime pas, vaut mieux pas traîner du côté d'M6 le 9 mai, c'est sûr.
Et chaque fois, je me dis la même chose. Pardon, mais vous-même, vous en plaisantez. Je me dis, quel organe pour un corps si frêle.
Je travaille beaucoup pour ça. Et effectivement, enfant, il paraît que quand je pleurais très fort. Donc j'ai dû me faire les cordes vocales quand j'étais bébé. Voilà, donc ça doit venir d'ici, de là.
Alors il sait préserver son outil de travail, il fuit la clim comme la peste, parce que la clim assèche les cordes vocales, donc c'est un vrai cauchemar. Et puis, il ne fait pas trop d'imitation pour les particuliers, si j'ose dire. Moi, il m'a par exemple rembarré un jour où je quémandais une imitation rien que pour moi a cappella.
Mais c'est ça, c'est pour ça qu'en dehors des spectacles, je fais très peu d'imitations parce que ça me coûte énormément de les faire à froid, de les faire en dehors de la tournée qui me prend déjà beaucoup d'énergie vocale. J'ai pas 36 voix, j'en ai qu'une seule. Je m'amuse à la tordre, à lui donner de la contrainte pour la faire résonner différemment. C'est le même travail qu'un acteur ou qu'un comédien, tout simplement.
Voilà.
Et
donc,
c'est ce soir sur M6 ?
Sur M6, du sol au plafond, je vous dis, mais c'est formidable. Moi, j'adore ce
très
truc.
Talentueux.
Allez, pas une minute inutile.
Je vous emmène tous les deux à New York, hein, rejoindre en direct notre correspondant Philippe Corbet. Bonjour Philippe.
Salut. Bonjour à tous.
Vous avez assisté cette nuit au début de la vente du siècle, hein, la collection de Peggy et David Rockefeller.
Oui, 1600 pièces de ce grand collectionneur décédé l'an passé à l'âge de 101 ans. Il souhaitait que le produit de ses enchères soit reversé à des œuvres de charité. Et la vente se tenait chez Christie's, au Rockefeller Center, ce gratte-ciel art déco emblématique de Manhattan, bâti à la fin des années 20 à l'initiative de son père, lui-même héritier d'une fortune du pétrole. La vente s'étale sur 3 jours, mais dès le premier soir, avec les œuvres du 19e et 20e siècle, le record historique d'une collection privée a été battu. Déjà 646 millions de dollars, 546 millions d'euros. Le record de la vente Yves Saint-Laurent Pierre Berger il y a 9 ans au Grand Palais à Paris a été largement dépassé. Le moment le plus intense de la soirée, c'était de superbes nymphéas en fleurs peints par Monet pendant la Première Guerre mondiale à Giverny. La vente débute à 36 millions de dollars. Très vite, on est à 40, 45 millions. Et ça continue pendant près d'un quart d'heure, car des enchérisseurs veulent absolument ce Monet. Important dans l'histoire de la peinture, car c'est un précurseur de l'abstraction. 70 millions. Finalement, à 84 millions de dollars, taxes et frais compris, 71 millions d'euros. Adjugé, record battu pour un Monet. Record aussi pour un Matisse, plus de 80 millions de dollars pour une odalisque couchée au Magnolia, lumineuse et sensuelle.
Alors on se dit toujours que c'est absolument incroyable d'atteindre de telles sommes.
Oui, le patron de Christie's, Guillaume Cerutti, est ravi. C'est déjà lui qui avait organisé la vente record du Léonard de Vinci il y a 6 mois au même endroit.
Ça dit des choses très claires et qu'on connaissait, mais qui sont souvent portées à un paroxysme. Lorsque nous présentons des chefs-d'œuvre en vente, ils sont toujours plébiscités. Ce sont les chefs-d'œuvre qui sont recherchés d'abord par les plus grands collectionneurs. La deuxième chose que cette vente dit, quand il y a un grand nom, une grande provenance, une belle histoire, qui est liée au passé, mais également à la destination via la philanthropie de cette vente, ça crée également un événement particulier. Enfin, je pense que ça prouve également à quel point le marché de l'art est mondialisé aujourd'hui. Les enchères venaient du monde entier. Vous avez vu de nos collègues de différentes nationalités enchérir au téléphone. Nous avons présenté cette collection dans plusieurs endroits dans le monde. Je pense que ça parlait à un très grand nombre de collectionneurs. La beauté de notre métier est que nous vendons des objets uniques, incomparables les uns avec les autres.
La fillette à la corbeille fleurie de Picasso est partie à 115 millions de dollars, le sixième tableau le plus cher de l'histoire, le quatrième Picasso au-delà de 100 millions, c'est du jamais vu. Mais certains imaginaient que ce chef-d'œuvre de la période rose pourrait partir au-delà de 200 millions.
Philippe Corbet, notre correspondant aux États-Unis. Les chiffres sont absolument faramineux et on se retrouve dans un instant, nous, pour vous faire des cadeaux. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Je vois tout le monde danser et quand je panique.
Les musiciens Sting et Calogero ont un point commun, Steven Bellery. Oui, mais lequel ?
Ce sont des bassistes, tous les deux.
Voilà, vous nous avez appelé au 3210 et donc vous avez remporté deux places pour assister à cette soirée inaugurale exceptionnelle, je vous le dis une fois de plus, dans nos studios à Neuilly. C'est donc lundi prochain à 20h30 précise. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être fidèle à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. On va tout de suite retrouver Julien Courbet.
Merci les infos.
Vous écoutez RTL.